centralizētais eksāmens franču valodā, optimālais mācību satura apguves līmenis.
Devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Hein?
Vous vous souvenez des jeux que vous faisiez ou des activités que vous faisiez avec vos amis dans la cour?
Je fais du rugby, donc je voyage beaucoup. Donc mes meilleurs souvenirs, c'est plutôt de voyager en fait, carrément.
2.
Et alors pendant votre scolarité, est-ce qu'il y a aussi des profs qui vous ont marqué?
Oui, en fait, moi j'étais très bolée au secondaire. Bolée, c'est... aussi un québécois, j'imagine, nerd, mettons.
Ah, oui. Vous étiez très bonne élève?
Très bonne élève, oui, première de la classe. Donc, moi, j'étais très bonne amie avec beaucoup de profs. Les profs m'aimaient beaucoup parce que j'étais bien sage et j'avais des bonnes notes. Donc, j'ai quand même développé des relations proches avec plusieurs profs. J'avais une prof de français, par exemple. J'avais une prof de français qui me demandait à chaque matin comment ça allait. Et puis, on avait des petites conversations à l'extérieur de ce qu'on avait en cours, mettons, des conversations qu'on avait avec les élèves, etc. Donc, elle s'appelait Madame Desaulniers.
3.
Et ça compte beaucoup pour aimer l'école, que les professeurs soient gentils?
Gentils et compétents et ne se contentant pas de comment je dirais, allez, enfin, ça date de loin quand même, hein. Mais à l'époque, on était capable de taper les enfants parce qu'ils comprenaient pas. Donc voilà, c'est tout. Mais autrement, ça a été bien.
Et vous avez des professeurs qui vous ont marqué justement parce qu'ils étaient bons?
Oui, je serais pas capable de donner leur nom, mais oui, prof de français entre autres.
Ouais. En quelle classe?
Au collège, donc à l'époque, on changeait pas tellement de professeurs.
D'accord. Et est-ce que c'était votre matière préférée, le français?
Oui, elle est restée.
Oui. Pourquoi?
Parce qu'on s'évade, je pense. Et puis parce que c'est sympathique de parler le plus correctement possible aussi.
4.
Et est-ce qu'il y a des profs d'école qui vous ont marqué avant la fac, même au primaire, au collège, lycée?
Oui. Enfin, surtout mes maîtres que j'ai eus en CM1 et en CM2, qui m'ont poussé à travailler dur et à tout simplement m'impliquer à l'école. Voilà.
Est-ce qu'il y a des profs avec qui vous avez gardé contact, peut-être?
Plus avec les profs de l'université, pour le coup, puisque le rapport est plus singulier qu'à l'école primaire. Mais surtout, oui, avec l'école, avec les enseignants de l'université, ouais.
5.
J'ai beaucoup aimé la classe de première. J'avais un prof de français qui s'appelait Monsieur Rive, qui était un tout petit monsieur, un peu âgé. Et il nous avait fait lire des choses que j'avais jamais lues et que j'ai adorées. Entre autres, toute la série autour des philosophes du 18e. Ça m'avait beaucoup, beaucoup plu.
6.
Quels sont vos meilleurs souvenirs d'école ou de collège, lycée?
À vrai dire, je suis professeur des écoles, enfin très prochainement professeur des écoles. Donc, disons que j'ai eu un très mauvais rapport à l'école lorsque j'étais plus jeune, mais ça s'est amélioré plus tard avec les profs que j'ai eus à l'université. Et puis voilà.
Et vous avez quand même des bons souvenirs ou pas du tout? Avec vos copains
Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'étais passionné par le sport.
Vraiment?
Et pour le coup, le fait de... Disons que j'étais pas très très bon au foot non plus, mais mes camarades m'encourageaient et me poussaient à faire du sport. Donc c'est là où j'ai quand même pris...
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Hein?
Vous vous souvenez des jeux que vous faisiez ou des activités que vous faisiez avec vos amis dans la cour?
Je fais du rugby, donc je voyage beaucoup. Donc mes meilleurs souvenirs, c'est plutôt de voyager en fait, carrément.
2.
Et alors pendant votre scolarité, est-ce qu'il y a aussi des profs qui vous ont marqué?
Oui, en fait, moi j'étais très bolée au secondaire. Bolée, c'est... aussi un québécisme, j'imagine, nerd, mettons. Ah, oui.
Vous étiez très bonne élève?
Très bonne élève, oui, première de la classe. Donc, moi, j'étais très bonne amie avec beaucoup de profs. Les profs m'aimaient beaucoup parce que j'étais bien sage et j'avais des bonnes notes. Donc, j'ai quand même développé des relations proches avec plusieurs profs. J'avais une prof de français, par exemple. J'avais une prof de français qui me demandait à chaque matin comment ça allait. Et puis, on avait des petites conversations à l'extérieur de ce qu'on avait en cours, mettons, des conversations qu'on avait avec les élèves, etc. Donc, elle s'appelait Madame Desaulniers.
3.
Et ça compte beaucoup pour aimer l'école, que les professeurs soient gentils?
Gentils et compétents et ne se contentant pas comment je dirais, ça date de loin quand même, hein. Mais à l'époque, on était capable de taper les enfants parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc voilà, c'est tout. Mais autrement, ça a été bien.
Et vous avez des professeurs qui vous ont marqué justement parce qu'ils étaient bons?
Oui, je ne serais pas capable de donner leur nom, mais oui, prof de français entre autres.
Ouais. En quelle classe?
Au collège, donc à l'époque, on ne changeait pas tellement de professeurs.
D'accord. Et est-ce que c'était votre matière préférée, le français?
Oui, elle est restée.
Oui. Pourquoi?
Parce qu'on s'évade, je pense. Et puis parce que c'est sympathique de parler le plus correctement possible aussi.
4.
Et est-ce qu'il y a des profs d'école qui vous ont marqué avant la fac, même au primaire, au collège, lycée?
Oui. Enfin, surtout mes maîtres que j'ai eus en CM1 et en CM2, qui m'ont poussé à travailler dur. Et à tout simplement m'impliquer à l'école, voilà.
Est-ce qu'il y a des profs avec qui vous avez gardé contact, peut-être?
Plus avec les profs de l'université, pour le coup, puisque le rapport est plus singulier qu'à l'école primaire, mais surtout oui, avec l'école, avec les enseignants de l'université, ouais.
5.
J'ai beaucoup aimé la classe de première. J'avais un prof de français qui s'appelait Monsieur Rive, qui était un tout petit monsieur, un peu âgé, et il nous avait fait lire des choses que j'avais jamais lues et que j'ai adorées, entre autres toute la série autour des philosophes du 18e. Ça m'avait beaucoup, beaucoup plu.
6.
Quels sont vos meilleurs souvenirs d'école ou de collège, lycée?
À vrai dire, je suis professeur des écoles, enfin très prochainement professeur des écoles. Donc, disons que j'ai eu un très mauvais rapport à l'école lorsque j'étais plus jeune. mais ça s'améliorait plus tard avec les profs que j'ai eus à l'université. Et puis voilà.
Et vous avez quand même des bons souvenirs ou pas du tout? Avec vos copains
Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'étais passionné par le sport. Enfin, du coup.
Vraiment?
Et pour le coup, le fait de. Disons que j'étais pas très très bon au foot non plus, mais mes camarades m'encourageaient et me poussaient à faire du sport. Donc c'est là où j'ai quand même pris.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Bonjour, Christophe de la librairie des nouveautés dans le 10e. Je vais vous présenter mon top 5 des livres qu'il faut peut-être avoir lus ou qui vont vous donner goût à la lecture. Alors, mon premier, c'est un classique, Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Donc, ce livre raconte l'histoire de Tom Sawyer, de ses aventures avec ses copains, avec sa tante aussi, Peggy. C'est toute l'histoire de l'école buissonnière fin 19e, début 20e. Plein de petites histoires, plein de petites aventures qui sont même parues, je crois, en manga, en dessin, en bande dessinée. Donc je pense que vous les connaissez tous. Mon petit second, un petit livre historique, Mathias Sénard, Parleur de batailles, de rois et d'éléphants. Donc là, on est dans un livre qui se déroule à la fin du 16e, où vous avez Michel-Ange qui est appelé par le sultan pour construire un pont qui doit permettre de relier l'Europe à l'Asie. Donc là, mélange aussi entre l'Occident et l'Orient, très 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 court, pas beaucoup de pages, très bien écrit, ça fait quoi, 150 pages? Troisième livre, 20 milieux sous les mers de Jules Verne, ce roman d'aventure, à mon avis absolument incontournable hein, parmi les ouvrages français, relate le voyage de trois naufragés capturés par le capitaine Nemo, un inventeur de génie qui parcourt le fond des océans à bord de son sous-marin, le Nautilus. À savoir 20 milieux sous les mers est le cinquième livre le plus traduit au monde, dans pas moins de 174 langues. Le quatrième livre dans mon top, c'est Les fourmis, de Bernard Werber. Je pense que c'est sûrement le meilleur livre de Werber, bien au-dessus de ses derniers ouvrages que je trouve décevants. Ce roman a été une découverte fascinante, alliant l'aspect scientifique avec des notes proposées au cours de la lecture, mais aussi une histoire aussi originale que prenante. J'ai eu du mal à lâcher mon livre pour faire autre chose et... Quand je le lisais pas, je pouvais penser qu'à ça. Pour moi, ce livre est une référence incontournable pour les amateurs de science-fiction. Après, pour les autres, ça plaît ou ça plaît moins, mais une chose est sûre, ça ne laisse pas de marbre. Un petit dernier, un classique, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que tout le monde connaît. Peut-être tout le monde n'a pas lu, mais donc cette rencontre entre ce petit garçon, une rencontre poétique, symbolique, entre ce petit garçon, un aviateur poétique avec des petits dessins de Saint-Exupéry à l'intérieur, ça fait partie des classiques. Alors je crois que tous ces livres sont au même prix en librairie indépendante ou en grande surface et que vous pouvez tous les retrouver aussi sur le site Librairie Indépendante qui regroupe toutes les librairies indépendantes de France.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Bonjour, Christophe de la librairie des Nouveautés dans le 10e. Je vais vous présenter mon top 5 des livres qu'il faut peut-être avoir lus ou qui vont vous donner goût à la lecture. Alors, mon premier, c'est un classique, Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Donc, ce livre raconte l'histoire de Tom Sawyer, de ses aventures avec ses copains, avec sa tante aussi, Peggy. C'est toute l'histoire de l'école buissonnière fin 19e, début 20e. Plein de petites histoires, plein de petites aventures qui sont même parues, je crois, en manga, en dessin, en bande dessinée. Donc je pense que vous les connaissez tous. Mon petit second, un petit livre historique, Mathias Sénard, Parleur de batailles, de rois et d'éléphants. Donc là, on est dans un livre qui se déroule à la fin du 16e, où vous avez Michel-Ange qui est appelé par le sultan pour construire un pont qui doit permettre de relier l'Europe à l'Asie. Donc là, mélange aussi entre l'Occident et l'Orient, très 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 court, pas beaucoup de pages, très bien écrit. Ça fait quoi, 150 pages? Troisième livre, 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Ce roman d'aventure, à mon avis absolument incontournable hein, parmi les ouvrages français, relate le voyage de trois naufragés capturés par le capitaine Nemo, un inventeur de génie qui parcourt le fond des océans à bord de son sous-marin, le Nautilus. À savoir, 20 milieux sous les mers est le cinquième livre le plus traduit au monde, dans pas moins de 174 langues. Le quatrième livre dans mon top, c'est Les fourmis de Bernard Werber. Je pense que c'est sûrement le meilleur livre de Werber, bien au-dessus de ses derniers ouvrages que je trouve décevants. Ce roman a été une découverte fascinante, alliant l'aspect scientifique avec des notes proposées au cours de la lecture, mais aussi une histoire aussi originale que prenante. J'ai eu du mal à lâcher mon livre pour faire autre chose, et quand je le lisais pas, je pouvais penser qu'à ça. Pour moi, ce livre est une référence incontournable pour les amateurs de science-fiction. Après, pour les autres, ça plaît ou ça plaît moins, mais une chose est sûre, ça ne laisse pas de marbre. Un petit dernier, un classique, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que tout le monde connaît. Peut-être tout le monde n'a pas lu, mais donc cette rencontre entre ce petit garçon, une rencontre poétique, symbolique, entre ce petit garçon, un aviateur poétique avec des petits dessins de Saint-Exupéry à l'intérieur, ça fait partie des classiques. Alors je crois que tous ces livres sont au même prix en librairie indépendante ou en grande surface, et que vous pouvez tous les retrouver aussi sur le site Librairie Indépendante, qui regroupe toutes les librairies indépendantes de France.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 3. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir.
Bonjour Simon.
Bonjour.
Comment ça va ?
Fatigué.
Fatigué parce que tu viens tout juste de rentrer de Guyane. Encore un décollage de fusée. C'était comment ?
C'était chouette, comme toujours. En plus, donc là, c'est Ariane 5. Ariane 5, c'est le lanceur lourd européen. Et qui dit lanceur lourd, dit beaucoup de bruit. Donc, peut-être plus que le spectacle visuel à chaque fois pour moi, c'est peut-être parce que je fais de la radio également, mais le son, notamment des boosters à poudre, des propulseurs d'appoint à poudre, comme on dit en bon français, qui ont un crépitement vraiment très caractéristique et une onde de choc qu'on ressent assez physiquement. Là, on est à 5 km du pas de tir au moment du lancement. Et il y a ce côté physique, vraiment, les basses qui font clapoter le sang à l'intérieur de ton cœur, tu le sens un peu. Donc non, c'est toujours un super spectacle.
C'est toujours quelque chose de magique, ça reste magique.
Oui, d'autant plus que quand on le regarde, on est sur un site d'observation où se trouvent en général également les ingénieurs, les scientifiques qui participent à la mission. Et ce sont des personnes qui ont passé 10 ans, 15 ans de leur vie à travailler là-dessus. Là, ça y est, la sonde est au sommet d'Ariane 5 et ça peut exploser comme ça en un instant et c'est 10 ans de leur vie qui part. Donc eux sont très émus. Il y a des applaudissements, il y a des cris, il y a beaucoup, beaucoup de larmes et c'est assez communicatif de voir tous ces gens émotionnellement investis là-dedans qui jouent vraiment 10 ans de leur vie sur ce moment critique puisque le lancement dans une mission spatiale, c'est quand même un des moments les plus critiques et c'est contagieux. Et c'est des gens qu'on a fréquentés, ça fait des semaines, des mois que je leur parle en préparation de la mission pour mes sujets. Donc on commence à bien les connaître et voir des gens qu'on connaît émus, forcément, c'est émouvant également de ton côté, oui.
Toi, ce sont des dossiers que tu suis depuis très longtemps, tu viens de le dire. J'ai le sentiment aussi que toutes ces missions spatiales, on en entend ces dernières années de plus en plus parler. Il y a l'ISS, bien entendu, la Station Spatiale Internationale, la mission lunaire Artemis, le rover Persévérance sur Mars, et là donc Jupiter. Pourquoi c'est important ?
Jupiter, parce que c'est la plus grosse planète du système solaire et qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent autour, on veut savoir plus. Il y a déjà Jupiter en elle-même, qui est un monde incroyable. Il y a plusieurs missions dédiées qui sont allées la voir. Galileo de la NASA dans les années 90, Juno de la NASA qui est en cours de mission actuellement, qui tourne autour de Jupiter. Et Jupiter n'est pas qu'une planète, elle a également des lunes. Elle en a un peu plus de 90, je crois, 95, si je dis pas de bêtises. Des petites, des grosses, et notamment...
Des sortes de satellites, en fait, qui tournent autour de la planète.
Comme la Lune autour de la Terre. Et pour la petite histoire, c'est Galilée qui avait découvert les premières, donc on appelle les premières les lunes galiléennes. En 1610, il avait braqué pour la première fois un télescope vers Jupiter, avait découvert ces lunes. C'était un clou en plus dans le cercueil de l'idée que la Terre était le centre de l'univers. Il y avait la révolution copernicienne avant. Et là, on s'apercevait qu'il y avait des lunes qui tournaient autour d'une autre planète que la Terre. Du coup, l'idée comme quoi la Terre était le centre de l'univers a pris un sacré coup à l'époque. Et donc là, 400 ans plus tard, on va voir ces lunes avec une mission dédiée. Donc JUICE, c'est la mission de l'Agence Spatiale Européenne qui a décollé la semaine dernière.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir.
Bonjour Simon.
Bonjour.
Comment ça va ?
Fatigué.
Fatigué parce que tu viens tout juste de rentrer de Guyane. Encore un décollage de fusée, c'était comment ?
C'était chouette, comme toujours. En plus, donc là, c'est Ariane 5. Ariane 5, c'est le lanceur lourd européen. Et qui dit lanceur lourd, dit beaucoup de bruit. Donc, peut-être plus que le spectacle visuel à chaque fois, pour moi, c'est peut-être parce que je fais de la radio également, mais le son. Le son, notamment des boosters à poudre, des propulseurs d'appoint à poudre, comme on dit en bon français, qui ont un crépitement vraiment très caractéristique et une onde de choc qu'on ressent assez physiquement. Là, on était à 5 km du pas de tir au moment du lancement. Et il y a ce côté physique, vraiment, les basses qui font clapoter le son à l'intérieur de ton cœur, tu le sens un peu. Donc non, c'est toujours un super spectacle.
C'est toujours quelque chose de magique, ça reste magique.
Oui, d'autant plus que quand on le regarde, on est sur un site d'observation où se trouvent en général également les ingénieurs, les scientifiques qui participent à la mission. Et ce sont des personnes qui ont passé 10 ans, 15 ans de leur vie à travailler là-dessus. Là, ça y est, la sonde est au sommet d'Ariane 5 et ça peut exploser comme ça en un instant et c'est 10 ans de leur vie qui part. Donc eux sont très émus. Il y a des applaudissements, il y a des cris, il y a beaucoup, beaucoup de larmes et c'est assez communicatif de voir tous ces gens émotionnellement investis là-dedans qui jouent vraiment 10 ans de leur vie sur ce moment critique puisque le lancement dans une mission spatiale, c'est quand même un des moments les plus critiques et c'est contagieux. Et c'est des gens qu'on a fréquentés, ça fait des semaines, des mois que je leur parle en préparation de la mission pour mes sujets. Donc on commence à bien les connaître et voir des gens qu'on connaît émus, forcément, c'est émouvant également de ton côté, oui.
Toi, ce sont des dossiers que tu suis depuis très longtemps, tu viens de le dire. J'ai le sentiment aussi que toutes ces missions spatiales, on en entend ces dernières années de plus en plus parler. Il y a l'ISS, bien entendu, la Station Spatiale Internationale, la mission lunaire Artemis, le rover Perseverance sur Mars, et là donc Jupiter. Pourquoi c'est important ?
Jupiter, parce que c'est la plus grosse planète du système solaire et qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent autour, on veut savoir plus. Il y a déjà Jupiter en elle-même, qui est un monde incroyable. Il y a plusieurs missions dédiées qui sont allées la voir. Galileo de la NASA dans les années 90, Juno de la NASA qui est en cours de mission actuellement, qui tourne autour de Jupiter. Et Jupiter n'est pas qu'une planète, elle a également des lunes. Elle en a un peu plus de 90, je crois, 95, si je dis pas de bêtises. Des petites, des grosses, et notamment...
Des sortes de satellites, en fait, qui tournent autour de la planète.
Comme la Lune autour de la Terre. Et pour la petite histoire, c'est Galilée qui avait découvert les premières... Donc on appelle les premières les lunes galiléennes. En 1610, il avait braqué pour la première fois un télescope vers Jupiter, avait découvert ces lunes. C'était un clou en plus dans le cercueil de l'idée que la Terre était le centre de l'univers. Il y avait la révolution copernicienne avant. Et là, on s'apercevait qu'il y avait des lunes qui tournaient autour d'une autre planète que la Terre. Du coup, l'idée comme quoi la Terre était le centre de l'univers a pris un sacré coup à l'époque. Et donc là, 400 ans plus tard, on va voir ces lunes avec une mission dédiée. Donc JUICE, c'est la mission de l'Agence Spatiale Européenne qui a décollé la semaine dernière.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.